Info Club Sandwich. Salut tout le monde, nous sommes le jeudi 7 mai 2026. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative préférée sur le 87.7 FM, sur radiocampusamiens.fr et sur le DAB+. Aujourd'hui, on écoute Aline qui a interviewé l'Audace. Ensuite, je vous lirai une chronique sur un spectacle que j'ai été voir hier soir. Mais on commence d'abord avec l'interview.
Alors bonjour, aujourd'hui nous recevons Shahinez Bouanani, chargée de communication, et Augustine Janssen, présidente de l'association Audace. Vous êtes aussi toutes les deux déléguées du Master Droit de la Santé à l'UPJV. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venues tout d'abord pour parler de l'asso et ensuite plus particulièrement du concours national des 24 heures du droit, de droit de la santé qui se tient depuis hier et jusque aujourd'hui, le 6 et 7 mai 2026 à Amiens. C'est bien ça.
Oui, c'est ça.
Alors, on va commencer très simplement. Est-ce que vous pouvez présenter votre association étudiante, s'il vous plaît ?
Oui, alors c'est l'association universitaire de droit appliqué à la santé. Donc, en fait, c'est l'association du master de droit de la santé de l'UPJV d'Amiens. Le but, c'est à la fois de promouvoir le droit de la santé, mais également toutes les actions en lien direct avec la santé. Donc, par exemple, on a le don du sang, l'organisation de campagnes telles que pour Octobre Rose, pour Une Jonquille, pour Curie, etc. Et l'événement principal qu'organise l'association, c'est les 24 heures du droit de la santé. Donc, c'est un concours de plaidoirie, mais je pense qu'on en reparlera un peu après.
Tout à fait. Et si on en revient au propos même, qu'est-ce que c'est le droit de la santé pour les auditeuristes qui n'y connaissent pas du tout ?
Alors, le droit de la santé, ça a été pendant très longtemps un droit qui a été assez négligé dans l'histoire du droit. Et donc, les masters droit de la santé n'existent pas depuis très longtemps. Mais le droit de la santé, ça va être tout ce qui va être lié de près ou de loin à la santé des individus, défendre leurs droits, les devoirs des médecins.
Oui, exactement.
Ce genre de choses.
Oui, ça peut aller de la simple piqûre qu'on fait pour une prise de sang, par exemple, ou pour un vaccin, à la grosse opération chirurgicale. Ça passe également par la chirurgie esthétique et c'est surtout des nouveaux aspects en ce moment avec le débat sur la fin de vie ou le droit à l'avortement, etc.
Et du coup, votre master, il donne accès à quoi comme type d'emploi si on veut comprendre encore plus ?
Alors, il y a un très grand, enfin c'est très vaste, on peut accéder à des concours, notamment le CRFPA ou encore le concours de l'ENM pour devenir avocat ou magistrat. Mais c'est pas que ça, on peut également devenir tout simplement juriste, donc quelqu'un qui va défendre les droits au sein d'entreprises telles que des entreprises pharmaceutiques ou encore des établissements de santé, des EHPAD, ce genre de choses. Voilà.
Oui, on peut aussi devenir directeur d'hôpitaux ou d'établissements de santé. Et ça peut aussi être des métiers qui parfois n'ont pas de rapport direct avec le droit de la santé. Mais ça peut être, par exemple, toutes les personnes qui travaillent auprès de l'ordre des médecins, des pharmaciens, etc.
Et c'est quoi l'intérêt pour les étudiants et étudiantes de participer ou en tout cas d'adhérer à votre association ? Ça implique quoi ? Et en quoi c'est bénéfique pour les étudiants et étudiantes ?
Alors c'est bénéfique parce que tout d'abord ça permet de créer une cohésion au sein du master de droit de la santé parce que le master est sur 2 années, donc les M1 et les M2, ça permet de faire des rencontres. Surtout, c'est une association qui est assez particulière, Audace, c'est-à-dire que le bureau est composé à part égale de professeurs de l'université et d'étudiants. Donc, par exemple, le trésorier, c'est le professeur Georges Forêt et le vice-président, c'est le professeur Emmanuel de Crouy-Chanel. Donc, ça permet un véritable lien entre les étudiants et les enseignants, donc les directeurs de master. Et surtout, ça permet de pouvoir participer au concours de plaidoirie qui est en fait, depuis quelques années, devenu l'apogée, entre guillemets, du master. Parce que quand on y participe, c'est vraiment... oui, exactement. C'est la possibilité de montrer ce qu'on a appris au cours de l'année.
Et vous savez pourquoi la moitié du bureau sont représentés par les présidents de... Enfin, les professeurs directeurs. De master, les directeurs de master
C'est aussi pour qu'ils puissent s'impliquer au sein de la vie étudiante, notamment aussi créer un lien avec leurs étudiants et montrer qu'ils les soutiennent, peu importe les projets, avoir vraiment une cohésion de groupe et aussi être là pour encadrer également l'association, pour pas qu'on ait à gérer tout seul.
Oui, c'est ça. Et comme on le précisait, c'est une association qui est surtout là pour les étudiants du Master de droit de la santé aussi. Donc, c'est une façon d'assurer la pérennité de l'association parce que les professeurs restent les mêmes et les étudiants changent.
Et comment les étudiants et étudiantes de l'association s'impliquent en fait au quotidien dans Audace, justement? Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites tous les jours ou toutes les semaines pour l'asso?
Alors, ça ne va pas être un travail qui va être vraiment journalier ou hebdomadaire. On va plutôt essayer de mener des actions qui vont être organisées. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous les jours faire quelque chose par rapport à Audace, mais on va... comme vous a dit tout à l'heure Augustine, par exemple, on a fait une campagne pour le don du sang. Mmh. Donc, ça prend du temps de contacter ces institutions et d'organiser ces choses-là avec des professionnels, etc. Donc, on va surtout se charger d'organiser pour un événement en particulier dans le semestre, par exemple.
Oui, exactement. On va plutôt être sur des événements ponctuels qui vont nécessiter beaucoup de travail en amont. Par exemple, l'année dernière, l'association UDAS était associée pour l'événement des 50 ans de la loi Veil. Donc, c'est la loi pour l'avortement. Et donc, en fait, c'était au sein de l'UFR de droit, c'était la reconstitution fictive des débats parlementaires. Et derrière, on avait un débat sur le droit à l'avortement, sur le droit des femmes, etc. Et c'était animé par des associations de protection des victimes, etc. Et donc, en fait, c'est vraiment des événements ponctuels au cours de l'année. Et après, ça peut être pour s'adapter, comme on est des étudiants aussi, sur les réseaux sociaux, par exemple, sur l'Instagram d'Audace. On va partager des événements de droit de la santé. Donc, comme le disait Chaynaise, ça peut être le don du sang.
Toutes les journées mondiales qui peuvent exister en lien avec la santé, etc.
Mmh. C'est quoi l'impact d'Audace pour les étudiants et étudiantes, pour vous?
L'impact d'Audace pour les étudiants, c'est une association qui est peu connue au sein de l'UFR de droit, mais étant donné qu'elle a plus de 20 ans maintenant, c'est une association qui fait partie des murs et surtout elle a une grande reconnaissance auprès de l'équipe encadrante de l'université parce que déjà on a des professeurs au sein de l'association et surtout on est vraiment une association uniquement axée sur le droit de la santé, sur la matière de notre master. Donc, par exemple, Audace n'organisera pas de soirées étudiantes, d'événements festifs, etc. parce que ce n'est pas la vocation même de l'association. En fait, c'est vraiment une association purement presque professionnelle puisque les anciens étudiants du master de droit de la santé qui sont devenus des professionnels maintenant peuvent y participer. On peut avoir des rencontres avec les professionnels du droit, etc. Donc, en ce sens, je pense que c'est comme ça qu'elle s'illustre.
Ça va vraiment permettre aux étudiants de se sentir vraiment dans leur domaine. Parce que c'est vrai qu'en première année de master, généralement, c'est un peu difficile, c'est assez encore généraliste. Donc, on a du mal vraiment à sentir qu'on fait partie d'un master droit de la santé. Mais avec l'association et toutes les actions qu'on peut mener, les entrevues avec des professionnels, etc., ça va vraiment les familiariser avec la santé, je dirais. Je ne sais pas.
Oui, je suis d'accord. Ouais.
On va maintenant parler un petit peu du concours national des 24 heures de droit de la santé. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce concours? Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est un concours un peu atypique. Il s'appelle les 24 heures du droit de la santé parce que c'est véritablement un concours qui dure 24 heures. Donc hier, les étudiants ont eu à 16h les sujets et ils ont dû rendre ce matin à 10h leur mémoire. Donc en fait, c'est les conclusions écrites, exactement comme des conclusions d'avocat. Pour les personnes qui ne savent pas ce que sont des conclusions, en fait, c'est toute la partie écrite que dépose l'avocat auprès du tribunal, dans lequel il formule ses observations, les demandes qu'il fait, etc. Donc en fait, à 10h, les équipes se sont échangées entre la demande et la défense, ses mémoires. Et là, jusqu'à 14h, ils ont eu la possibilité de préparer leur plaidoirie. Et donc cet après-midi, ils vont plaider chacun leur tour en demande ou en défense pour défendre le sujet qu'ils ont eu. Parce qu'en fait, ça mêle à la fois concours écrit et concours de plaidoirie. Donc les équipes sont composées de 4 personnes. On a 3 personnes qui participent aux conclusions et une personne qui plaide pour l'équipe. Et en fait, à la fin, on désigne... Il y a 4 titres qui sont en jeu. Donc on a le titre de la meilleure plaidoirie, le titre du meilleur plaideur, le titre du meilleur mémoire et enfin le titre de la meilleure équipe. Et donc cette année, ça a la particularité de se dérouler à Amiens parce que l'année dernière, l'équipe participante de l'UPJV a remporté le concours. Elle a eu le titre de la meilleure équipe. Et donc la tradition veut que l'équipe gagnante accueille l'équipe, enfin le concours l'année d'après.
Et si on revient justement à cet événement de l'année dernière où vous avez pu, ou en tout cas une équipe de l'UPJV a gagné, ça apporte quoi aux étudiants et étudiantes qui ont gagné ce concours-là?
C'est très gratifiant. Ça permet de montrer que ce qu'on étudie, ça ne sert pas à rien. Et puis, ça permet de se rendre fier soi-même, notre entourage, nos professeurs aussi. Mmh. Mais je pense qu'Augustine sera plus à même de parler de ça.
Et surtout, ça permet de faire briller un peu l'UPJV, parce que généralement, peu importe la filière à l'UPJV, étant donné que c'est la ville d'Amiens, souvent c'est un peu moins gratifiant que les autres villes, ou alors on dit que le niveau est peut-être un peu inférieur à ceux des autres universités. Et en fait, là, on était face aux universités de droit comme Paris-Saclay, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, qui sont vraiment des grandes universités réputées. Et ça permet de montrer que peu importe l'étudiant, on peut quand même remporter le concours et c'est pas l'université qui détermine notre capacité au final.
Mmh. Vous avez évoqué un peu le nom de certaines universités, c'était ma prochaine question. Combien il y a d'équipes et combien d'universités participent cette année, en tout cas à peu près?
Je crois qu'il y a 10 universités participantes cette année et le nombre d'équipes...
Oui, alors cette année, exactement, il y a 12 équipes et 9 universités participantes, puisque cette année, le concours n'est pas international. On a une équipe de Suisse qui ne participe pas, mais habituellement, c'est un concours de 9 équipes françaises et une équipe suisse.
Et vous nous avez parlé un petit peu avant du fait que les sujets ont été donnés hier. Quel type de sujets vous pouvez avoir ?
Alors, les types de sujets, ça va être généralement un problème qui va être posé devant nous au niveau juridique, donc, qui va mêler la santé. Et il y a généralement quelqu'un qui a subi un dommage ou quelque chose, une atteinte, et qui va demander réparation. Enfin, ça peut être aussi
oui,
dans plusieurs sens, mais il y aura une partie qui va... demander réparation et une partie qui devra défendre ses intérêts.
Oui, c'est ça. En fait, ça se présente vraiment comme ce qu'on peut voir devant un tribunal. Donc, on a une personne qui a subi un dommage et elle vient devant le tribunal demander réparation. En fait, l'équipe en demande sera l'avocat de la demande et l'équipe en défense sera l'avocat de la défense.
Donc c'est des exemples très concrets, finalement.
C'est ça.
Oui. En revanche, ça reste quand même un concours. Donc, c'est l'université de Montpellier qui a le label du concours. Donc, c'est toujours l'université de Montpellier et l'école de droit de la santé de Montpellier qui font les sujets. Et ils essaient toujours de mêler un peu d'humour au sujet. Donc, par exemple, l'année dernière, le sujet était pour Marc Cassin. Donc, c'est toujours des jeux de mots qu'ils essaient de faire pour rendre le sujet plus attrayant à travailler comme ça en concours d'étudiants.
Est-ce que l'association, votre association, Audace, a été un peu derrière l'organisation de l'accueil de cet événement aujourd'hui?
Ah oui, totalement, oui. Donc, on s'est chargé de tout, du début à la fin, que ce soit l'accueil des participants, leur logement, les repas, l'organisation même du concours, où est-ce que ça allait se dérouler, la remise des prix, les résultats, etc. Tout a été minutieusement pensé et organisé par l'association Audace et notre directeur de master, Monsieur Forêt.
Oui, et l'association Audace, étant donné que le concours se déroule au sein de l'UPJV, on a bien entendu demandé aussi aux services comme de l'UPJV et à l'UPJV, l'UFR de droit, de nous accompagner parce qu'on ne peut pas engager l'UPJV, c'est quand même aux yeux des autres universités. Et aussi, on a eu la chance de travailler avec l'auberge de jeunesse d'Amiens, donc au Square Friant qui accueille les étudiants. Et vraiment, on les remercie énormément pour l'accueil parce qu'ils ont été adorables avec nous. C'est compliqué de loger 50 étudiants au même endroit pour 2 nuits. Donc vraiment, ils ont été super avec nous.
Eh bien, merci beaucoup. Je pense que j'ai fait le tour de toutes mes questions. On va un peu rappeler à quelle heure il faut se rejoindre, etc. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de conclure cette émission?
Déjà, merci beaucoup de nous avoir invités ici. C'était très plaisant. Ça fait du bien de pouvoir parler de son master à plus de personnes que les gens du sein du master. Et voilà.
Très bien. Eh ben, merci à vous deux. Rappel, du coup, l'épreuve de plaidoirie se déroulera aujourd'hui, jeudi 7 mai 2026, à partir de 14h au pôle cathédrale Placette Lafleur. Et la proclamation des résultats, donc la remise des prix, est prévue le même jour à 18h30, cette fois au logis du roi. Vous allez pouvoir retrouver donc les 12 équipes venues de 9 universités pour cette édition organisée par l'Université Picardie Jules Verne, UPJV, et bien sûr par la votre association. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Belle comme une AK-47, dans les mains des rebelles qui t'ont capturé, ma belle, et que je vais déchirer à grands coups de shrapnel. Belle, belle comme une AK-47, dans les mains des rebelles qui t'ont capturé, ma belle, et que je vais déchirer à grands coups de shrapnel. Belle, belle comme une section de Panzer qui s'abat sur la Pologne dans un déluge de métal pour te ramener à moi. Belle, belle comme une AK-47. Belle, belle comme une AK-47. Belle, belle comme les orgues de Staline, hurlant une symphonie où la chair et les gravats forment une étrange mélodie. Belle, belle à l'ombre des églises et des mosquées en ruine, à nous boire notre cocktail Molotov, mon amour Kalachnikov. Belle, belle comme une AK-47. Belle, belle à l'ombre des églises et des mosquées en ruine, allons boire notre cocktail Molotov, mon amour Kalachnikov. Belle, belle comme une AK-47. Belle, belle comme une AK-47.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens et on vient d'écouter AK-47 de Martin Angor. On est dans la deuxième partie de l'émission et je vais vous lire une chronique. Hier soir, j'ai été voir le spectacle L'Absolu de la compagnie Les Choses de Rien avec Boris Gibé à la Maison de la Culture. C'est du cirque, mais oubliez les paillettes. J'ai pas tout saisi, mais c'était incroyable, impressionnant et très beau à voir. On est parti scanner nos billets, on a attendu dans le hall et on s'est dirigé vers l'installation qu'il y a devant la Maison de la Culture depuis le début de la semaine, un silo chapiteau d'acier. On est rentré un à un, les sièges tabourets étaient disposés en spirale le long du bord de la structure. Tout le monde s'installe, c'est le noir total, le silence et un disque transparent s'allume au plafond. De l'eau bleue coule comme une substance qu'on observe au microscope. En étant assis en spirale le long des parois, c'était comme si on était en train d'observer une expérience scientifique, mais en étant de l'autre côté du microscope. Et là, un homme arrive dans le disque, il s'agite pendant de longues minutes, et le disque se déchire, de l'eau tombe en même temps que lui, c'est comme s'il venait de naître. Retenu par une corde, il descend doucement au sol et disparaît dans du sable. Après une pause dans le noir, une forme commence à danser à l'intérieur du sable, une boule à facettes apparaît, et une forme plus conséquente se met à danser aussi. On comprend que c'est l'homme. Il tente de sortir mais n'y arrive pas. Il semble absorbé dans le sens où il aime danser dans ce sable. Il ne peut pas s'en empêcher, mais en même temps, il veut en sortir. Au final, tous les éléments finissent absorbés par un trou qui se forme dans le sol. On passe à ce qu'on pourrait appeler la deuxième partie de la performance. Il n'y a plus de sable, le sol est orné d'une lumière rouge. L'homme est de retour, mais avec une boule à facettes à la place de la tête. Il danse toujours à même le sol, mais essaye de se lever. Il y arrive enfin, mais retombe. Et dans ce qu'on pourrait appeler la troisième partie du spectacle, l'homme est debout. Au milieu, il y a une chaise avec une corde attachée au bout. Il porte des vêtements sales. Il a les yeux bandés, une cigarette à la bouche et des allumettes à la main. Il tâte les environs. Quand il touche la chaise et comprend qu'une corde est attachée dessus, il est tout content. Il se précipite pour s'asseoir et s'attacher comme s'il se mettait lui-même en otage. Quelque chose le menace de lui faire tomber une enclume sur la tête à chaque fois qu'il essaye de se faire du mal à l'aide de ses allumettes. Mais comment il va se faire du mal avec des allumettes, vous allez dire ? Eh bien, en allumant une bombe en dessous de sa chaise. En se versant de l'essence dessus pour essayer de prendre feu, de s'immoler, mais il n'y arrive pas. Et puis, peut-être la dernière partie du spectacle, il n'y a plus de chaise, plus de corde, plus de bidon d'essence, plus d'enclume et l'homme n'est plus là. Le sol et le plafond s'ouvrent pour former une tornade, avec un jeu de lumière qui donne l'impression que c'est une tornade de feu. Et on retrouve l'homme en train d'escalader les parois qui servent d'accoudoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Il monte jusqu'au sommet. Et ensuite, se balance jusqu'en bas en jouant entre trois cordes. Et voilà, c'est la fin de la pièce, enfin de la présentation. J'ai sûrement oublié des détails. C'était un mélange d'acrobatie, de magie et beaucoup, beaucoup de jumpscares sonores aussi. Et voilà l'absolu. Je comprends un peu mieux le titre de ce huis clos radical pour cirque paranormal. Et voilà, c'est déjà la fin de votre Info Club Sandwich. On se quitte en musique avec Bizarre Triangle Love de New Order. Merci de nous avoir écoutés sur et à demain sur Radio Campus Amiens.